sexualité et handicap, les terres promises d'un bonheur conforme. Juin 2012. On connaît mal en France la culture en lien avec les disability studies, les disability arts et les diverses formes d'activisme, telles qu'independent living, qui ont pu animer l'histoire collective handi. C'est au sein du militantisme britannique du tout début des années 1970 que Vic Finkelstein et Paul Hunt élaborèrent cette manière neuve d'appréhender le handicap que Mike Oliver, à leur suite, théorisera sous l'appellation de « modèle social ». Selon cette optique, l'expérience handi se caractérise par l'appartenance à un groupe en lutte pour son autonomie. Une large critique des dispositifs ségrégatifs découle de cette définition, qui sera développée sur le plan universitaire dans le cadre des Disability Studies. Différents foyers porteurs de conceptions voisines, particulièrement actifs aux États-Unis et dans les pays nordiques, alimenteront les volontés individuelles d'organiser soi-même sa propre autonomie, dans le même temps qu'ils fourniront des ressources favorisant des modalités d'appréhension collective du handicap. Tom Shakespeare rappelle combien les ruptures narratives offertes par le modèle social ont permis à chacun de donner du sens à son existence indépendamment des catégories médicales et des récits en termes de tragédie personnelle. Il n'est pas exagéré de dire que le modèle social a sauvé des vies, écrit Liz Krau. Les Disability Arts viendront enrichir cette approche en réunissant des artistes qui ont en commun de considérer les écarts aux normes de santé non comme des sources de souffrance, mais comme des points de départ propices à la création. En aucun cas, ils ne nient les aspects négatifs de ces écarts, mais simplement, pour les activistes, universitaires ou artistes, la nécessité s'est imposée de produire et de diffuser des structures narratives neuves qui ne se réduisaient pas au discours médical. Si, outre-Manche, cet élan bénéficie d'une forte légitimité sociale, des laboratoires de recherche inscrivent leur activité dans le cadre du modèle social, le Conseil des arts britanniques reconnaît pleinement la valeur des Disability Arts. Ce foisonnement culturel peine à pénétrer les frontières hexagonales. En dépit de sa diffusion numérique, il demeure largement méconnu des personnes dont il pourrait soutenir les constructions identitaires. Sans doute, les différences d'inflexion des champs militants anglo-saxons et français ont-elles leur part dans la détermination de ce phénomène ? Alors que, pour les anglo-saxons, les institutions spécialisées demeurent des indices de l'oppression valide, les associations françaises se sont de longue date structurées autour de la gestion d'établissements de ce type. Dès lors, la pertinence des idées mêmes d'identité et d'histoire collective handi est beaucoup plus évidente d'un côté de la Manche que de l'autre. Ce fossé ne se donne peut-être pas mieux à voir ailleurs que dans les mobilisations contemporaines autour des sexualités. En effet, la parole associative hexagonale peine à concevoir le divers comme un foyer de création, à partir duquel pourraient se développer des normes propres, générées par les spécificités individuelles. Il est entendu que ces dernières ne créent rien, qu'elles demandent assistance, que leur rôle dans la situation sexuelle consiste à déclencher le don d'autrui. Nous ne saurions nier la réalité des plaintes adressées, qui évoquent tour à tour le manque, la frustration, le sentiment de ne pas se sentir aussi désirable qu'une personne valide. Un lien diffus mais suffisamment solide pour structurer une part des discours individuels tend à agréger des attentes affectives, sexuelles, à l'image d'un bonheur inaccessible et idéalisé. Et dans cette optique, la séduction que peut exercer la perspective des solutions individualisées promises par l'assistance sexuelle se comprend aisément. Mais il nous semble nécessaire de souligner qu'en optant pour cette voie, la parole associative française ne mesure pas le retour qu'elle opère vers l'intervention sur le corps. Elle évacue ainsi toute la pertinence des analyses en termes de facteurs environnementaux. De plus, en introduisant hors de l'institution une manière de raconter les sexualités, en premier lieu déterminée par les us et coutumes du milieu spécialisé, les revendications associatives ne risquent-elles pas de solidifier les représentations qu'elles entendent pourtant modifier ? Quels effets bénéfiques la population handi peut-elle attendre d'un discours qui affirme « Dans l'échange sexuel, celle-là n'est bonne qu'à recevoir ». Nous entendons bien les plaintes et les frustrations, mais nous pensons qu'elles indiquent un déficit d'outils de pensée qui permettrait de s'appréhender soi en tant qu'être désirable et pas seulement désirant, Nous pensons qu'il revient aux mobilisations associatives d'élaborer ces outils. Car l'enjeu n'est pas seulement celui d'un changement du regard que les personnes valides porteraient sur les formes de la diversité corporelle, cognitive, sensorielle. Peut-être s'agit-il davantage d'un changement du regard que les personnes handies portent sur elles-mêmes. L'accueil de soi, base de la ramification des possibles. Appréhender l'expérience d'une personne en fonction d'un modèle auquel elle ne correspond pas est une pratique fréquente. Elle préside aux descriptions en termes de déficience et d'incapacité. Pourtant, ces tentatives d'objectivation ne se basent-elles pas sur des critères inadéquats ? L'univers de sens, qui constitue le socle que nous partageons, en dit et valide, pour communiquer, pour décrire les êtres, les situations, les actions, est régi par la norme du geste individuel efficace. Norme tenue pour neutre, alors qu'elle ne constitue qu'une modalité d'être possible. Remarquons également, comme le dit John Gagnon, que dans une situation sexuelle, la dépendance est mutuelle. Dès lors, si une personne ne détient de mouvement que par l'intermédiaire du corps d'une seconde, si l'une et l'autre partagent une définition suffisamment commune de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer ensuite, s'appréhender soi, appréhender l'autre comme deux partenaires sexuels potentiels, verbaliser afin de s'entendre sur le geste à venir, attendre un bénéfice de cet échange réciproque. Alors la communauté du geste prend le pas sur le geste individuel efficace. De l'expérience handie, ici modelée de mixité, des normes se déploient. Et des descriptions en termes de déficience et d'incapacité ne manqueraient-elles pas alors leur objet ? Or, les personnes même qui portent ce potentiel créatif ne le perçoivent pas de prime abord. Alors que celles-ci mettent en œuvre dans leur vie, dans leur manière d'être ensemble, les normes et les valeurs en lien avec la communauté du geste, l'hégémonie du langage valide est telle que la portée sémantique et normative des pratiques, ainsi générées, demeure au seuil de l'institué. De notre point de vue, l'enjeu du discours sur les sexualités handies, mais à vrai dire sur l'ensemble des parcours d'existence du divers, nécessite de développer, d'élaborer des façons neuves de décrire le réel, qui soient en phase avec ce qui peut émaner des personnes, telles qu'elles sont, et quelles qu'elles soient. Ce réel, les manières d'être handies le tracent d'ores et déjà comme ordinaire, tant elles ont appris à exister et évoluer bien avant de savoir le décrire, l'écrire comme référence de vie, comme ressource collective, bien avant de s'inscrire comme porteuse de normalités multiples. Les extraordinaires, fréquemment affublés à la diversité, dans toutes ses formes et ses chemins, n'ont pour réalité que des ordinaires quotidiens, des combinaisons d'existence qui se fabriquent entre envie et possible. Aucune destination exceptionnelle. Les technologies qui jalonnent ces parcours ont beau apparaître atypiques et remarquables, elles ne sont perçues par leurs utilisateurs et utilisatrices que comme outils corporels, comme inaperçus habituels à la succession journalière. Le fauteuil roulant comme facteur de déplacement, la trachéotomie comme facteur de respiration, sont des indispensables qui s'incorporent au cheminement individuel, mais ces derniers importent par leur direction et leur capacité d'énergie, bien plus que par leur fonctionnement et leurs outillages. Depuis la communauté du geste, depuis le recours à la technique, les trajets du divers composent du mouvement de vie, et jamais ne cessent de manifester ce potentiel créatif existentiel. Mais le singulièrement existant n'implique pas mécaniquement sa reconnaissance commune. Ces modalités d'être étant continuellement référées à la norme valide, dont elles apparaissent comme des annexes malheureuses, inadéquates, il est individuellement ardu de s'affranchir de ces critères profus et de se sentir pleinement valorisé, ou ne serait-ce que permis. Combien de personnes handies ne se sentent désirables que si elles ont été désirées par un ou une partenaire valide, validées par ce ou cette partenaire qui rassure la normalité ? En ces occurrences, le doute perpétuel face aux enjeux de désir et de plaisir qu'il est possible de déclencher semble maintes fois de mise. Rarement, les spécificités sont pensées comme occasion de rencontre, de recherche et de réalisation de capacités intimes, dont la vigueur a composé par chaque possible quotidien une harmonie de l'ordinaire. De cette succession d'accueils peuvent s'ouvrir pourtant des dialogues inédits entre les vécus handis et les vécus valides, mesurant l'équilibre de chaque singularité, oublieux des fortifications diagnostiques et pronostiques au relent de « voilà comment tu es et seras », mais prêtant attention à des « tels que je suis » et questionnant des « tels que nous pouvons être l'un par rapport à l'autre ». La narration Andy ne peut plus être une paraphrase des instances gestionnaires et des visées d'assistanat, mais doit devenir une valeur à part entière qui ne peut s'énoncer qu'à partir des personnes vivant cette évidence. La reconnaissance de cette parole est condition de dialogue. Encore faut-il s'entendre soi. La reconnaissance de handicap est administrativement basée sur la faille des déficiences et des incapacités. Et c'est ainsi que la diversité généralement s'énonce au fil des paroles quotidiennes. Déficit malheureux, manque, frustration, autant d'indices qui plaideraient pour le regret d'être soi. Dans cette optique, les modalités d'être Andy seraient matière à compenser. La reconnaissance des formes de la diversité n'inviterait-elle pas, au contraire, à promouvoir la légitimité de normalités multiples? Si, ponctuellement, ces normalités se déploient déjà, les revendications contemporaines ancrées sur les sexualités handies, l'assimilation de ces dernières soit à des limbes plaintifs, soit aux horizons d'un bonheur d'épinal, devraient cependant nous alerter. Car la capacité collective à penser les spécificités individuelles pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles peuvent générer de créativité, et non plus en fonction d'un modèle qui leur est inadéquat, reste en France à développer. L'accueil de soi, l'accueil de l'autre, la possibilité d'une succession d'échanges, de découvertes et de mutualités sont peut-être à ce prix. Texte coécrit avec Pierre Dufour. Ouvrage cité. Victor Finkelstein. Disability and the Helper Helped, Relationship and Historical View. Dans Bréchin, Lydiard, Swain. Handicap in a Social World, Hodder and Stoughton, 1981. Michael Oliver, The Politics of Disablement, Basingstoke, Macmillan et St. Martin's Press, 1990. Tom Shakespeare, Kat Gillespie-Sells et Dominique Davies, The Sexual Politics of Disability, Untold Desire, Cassel, 1996. Lee Scrow, Including All Our Lives, Renewing the Social Model of Disability, dans Barnes, Mercer, Exploring the Divide, Leeds, The Disability Press, page 56, 1996. John Gagnon, Les scripts de la sexualité, essai sur les origines culturelles du désir, Payot, Rivage, 2008.